chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons et nous terminons cette série concernant mort et résurrection de Jésus-Christ. Est-ce la vérité ou est-ce un mythe? C'est donc l'étude numéro 23. Et le titre sera « Jésus prie ». Il prie pour tous les croyants et pour tout le monde. Saint Jean, notez bien Saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. C'est donc chapitre 17 de Saint Jean, chapitre 20, versets 20 à 26, que nous allons voir ensemble. Chapitre 17, versets 20 à 26. Il est dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse ce que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Strictement parlant, chers amis, la prière de Jésus pour ses disciples dans les versets précédents, chapitre 17, versets 6 à 19, ne concerne que ceux qui étaient déjà ses disciples en cette dernière nuit fatidique. Certes, bon nombre de ces caractéristiques s'appliquent aussi aux personnes devenues croyantes plus tard, et quelques-uns de ces ingrédients sont rappelés dans les versets que nous abordons maintenant. Ceux-ci rapportent la prière de Jésus en faveur de ceux qui deviendront ses disciples ultérieurement. Au sens le plus strict, la section chapitre 17, versets 6 à 19, a en point de mire un horizon qui a besoin de s'élargir. C'est ce que font les versets 20 à 26 que nous étudions aujourd'hui. Ce n'est pas pour eux seulement, mes disciples actuels, que je prie, continue Jésus. Je répète, ce n'est pas pour eux seulement, pour mes disciples actuels que je prie, dit Jésus, mais encore pour tous ceux qui croient en moi par leurs paroles. Verset 20, par les paroles des disciples, des apôtres, des serviteurs de Dieu plus tard. Le fait même que Jésus passe à cette étape donne fortement à penser qu'il voit d'avance une période au cours de laquelle ses témoins répondront la glorieuse vérité de l'Évangile. On peut se rappeler ces paroles. Cette bonne nouvelle du royaume, elle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 14. Alors viendra la fin, ou cette autre déclaration décisive qui dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Saint Matthieu, chapitre 16, verset 18. Jésus entrevoit une communauté ininterrompue de croyants. Il les voit après la croix. Bref, il laisse ses disciples sur la terre pour former son Église. Le regard que Jésus jette dans l'avenir et sa perspective d'un cercle sans cesse croissant de témoins dominants qui domine les versets 20 à 23, excusez-moi, et même lorsque Jésus prie pour leur unité, il regarde bien au-delà de l'unité présente. Il regarde vers le monde qui est encore inconverti et qui a besoin du témoignage éloquent de cette unité. Ces versets développent ainsi le thème du témoignage au monde, au moyen de la sanctification des croyants, thème déjà abordé, que nous avons déjà abordé dans les versets précédents, rappelez-vous chapitre 17, versets 16 à 19, que nous avons mentionné plusieurs fois. Donc, Jésus prie pour l'unité, l'unité de tous ceux qui deviendront ses disciples. Chapitre 17, versets 20 à 23. Les idées contenues dans le passage que nous abordons sont étroitement imbriquées. Nous pouvons cependant les regrouper tous sous trois titres. Premièrement, nous avons une unité qui s'étend. Jésus a déjà prié que les disciples présents avec lui soient un, verset 11. Il précise maintenant deux orientations à cette unité. Il insiste sur le fait que cette unité inclut ceux qui croiront par le message des disciples existants, verset 20. Il prie de plus que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Verset 21. En termes d'unité de l'Église, les apôtres ne jouissent d'aucun privilège particulier. Le croyant du troisième millénaire goûte autant qu'eux à l'unité du corps. Telle est donc la requête de Jésus. Il s'ensuit que l'unité pour laquelle Jésus prie n'est pas statique, mais elle est en expansion. Cette pensée est révolutionnaire. Des hommes et des femmes de race, de culture, de langue différentes, échelle de valeurs, on peut dire différentes, deviennent tous croyants en Jésus-Christ et se trouvent ainsi inclus dans l'unité qui est en développement constant pour laquelle Jésus prie. Jésus développe donc d'une autre façon ce thème de l'unité. il précise d'une manière qui nous permet d'en entrevoir plus exactement la nature. En pensant à la multiplication des croyants qui constitueront cette unité, Jésus prie et il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » Versets 22 et 23. Ou encore, « Afin que eux aussi soient un en nous. » Verset 21. Ce chemin débouche sur la gloire du triomphe final. Mais dès maintenant, nous possédons quelque chose de la gloire de Jésus dans la mesure où, comme lui, nous devons endurer l'inimitié du monde et marcher en serviteur souffrant. C'est là notre gloire et non notre honte. Ne considérons jamais notre croix comme un châtiment. Envisageons-la comme étant notre gloire. Plus nous confions une tâche ardue à un étudiant, un artisan, un chirurgien, plus nous l'honorerons. Ainsi, quand il nous est difficile de vivre en chrétien, disons-nous que c'est notre gloire, c'est l'honneur que Dieu nous fait. L'unité entre les croyants n'est pas seulement à l'image de l'unité qui existe entre Jésus et son Père. Chapitre 17, verset 22. Ce que Jésus a déjà souligné plus haut, au verset 11. Et il a présenté tout cela comme une unité d'amour, d'objectif, de sainteté et de vérité. Elle concerne aussi une présence à demeurer de tous les intéressés. Donc Jésus prie que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, moi en eux, et toi en moi. Versets 21 et 23. Il va même plus loin et prie qu'ils soient parfaitement un. Verset 23. Ce qui laisse entendre que cette unité est appelée à se développer et à se parfaire. Nous avons vu que c'est le Père qui, vivant en Jésus, accomplit les œuvres de Jésus. Chapitre 14, verset 10. Bien que le Fils soit dans le Père, co-éternel, il faut bien le dire, avec lui, dans l'unité de la divinité. Il dépend cependant de lui et lui obéit dans le dépouillement volontaire de sa mission. Quoique un, le Père et le Fils demeurent distincts. De même, grâce au Consolateur promis, le Saint-Esprit, le Père et le Fils établissent leur demeure dans les disciples. Chapitre 14, verset 23. De sorte que ceux-ci, comme Jésus, deviennent la sphère de l'activité divine. Notez chapitre 14, verset 12. En restant attaché au cep, il porte du fruit. Chapitre 15, verset 1. Pour ce faire, ils doivent dépendre de celui qui vit en eux et lui obéir. et lui obéir. Chapitre 15, verset 4, verset 10 et verset 11. J'ai dit chapitre 15, verset 4, verset 10 et verset 11. L'unité dont les disciples de Christ jouissent, elle est fondée sur une présence mutuelle. D'un côté, nous avons l'Esprit vit, il vit en chacun d'eux, l'Esprit Saint. Et de l'autre, nous avons, ils vivent en Dieu, ils dépendent de lui, ils comptent sur lui, lui obéissent, et ils gardent le Saint-Évangile qui leur a confié et par lequel ils sont sauvés. C'est à la fois l'expérience et le devoir de tout véritable croyant. Comme la satisfaction, cette unité est simultanément une réalité déjà acquise et encore à perfectionner. D'une part, les croyants, s'ils le sont authentiquement, ils sont déjà un. Le Dieu trinitaire a déjà établi sa demeure en eux et ils vivent par la foi en Jésus-Christ. Cela est vrai pour chacun d'eux. Ils ont fait la même expérience de la grâce. Leur foi, elle repose sur le même objet. Ils ont la même destination éternelle. Ils sont régénérés absolument de la même façon et ils partagent le même rejet du monde. Et ils ont la même perception de la gloire du Seigneur. Ces facteurs communs les unissent. Les liens qui unissent les véritables chrétiens sont si profonds et si éternels qu'ils transcendent tout ce qui les divise. Les chrétiens sont vraiment un. D'autre part, ils ont besoin de faire des progrès dans cette unité, puisque Jésus prie et dit qu'ils soient parfaitement un, verset 23. Par cette prière, Jésus indique que bien que réelle, l'unité n'est pas encore absolument parfaite. Nous constatons malheureusement que les chrétiens n'aiment pas toujours profondément ce qui les unit aux autres chrétiens. Ils préfèrent souvent ce qui les divise. Ça ne devrait pas être ainsi. Même lorsque un problème de conscience est en jeu, nous risquons de mettre en danger l'intégrité du témoignage de cette unité dans l'amour en défendant ce que nous croyons être une vérité fondamentale. L'Église a donc besoin de parfaire son unité dans sa pratique, son attitude, son amour, vraiment sa compréhension croissante de la véritable doctrine. Jésus a prié dans ce sens. Un jour, sa prière sera exaucée sans réserve. L'unité en expansion, elle débouchera sur une unité absolument parfaite. Deuxièmement, nous avons l'expansion du témoignage. L'unité pour laquelle Jésus prie vise encore un autre objectif. Il demande cette unité pour que le monde croie, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, est-il dit au verset 21. Et il ajoute qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 23. L'expansion de l'unité engendre un développement du témoignage. C'est ainsi que l'Église grandit. Les premiers disciples avaient transmis le message, à la suite de quoi d'autres personnes sont venues à la foi. Verset 20. Et ce cercle élargi témoigne et aime, et de nouvelles personnes commencent et continuent de croire. Alléluia! Le monde constitue la cible constante. Lorsque le témoignage de l'Église se présente aux hommes et aux femmes du monde, il en convainc certains qui finissent, et oui, qui finissent par reconnaître que Dieu a vraiment envoyé son Fils et qu'il aime les siens dans la même mesure qu'il aime son Fils bien-aimé. Verset 23. Le témoignage croissant de l'Église concerne deux éléments d'après ce passage. Le premier, c'est la proclamation du message qui doit être cru. Verset 20, verset 21 et 23. Le deuxième est la démonstration publique de l'unité pour laquelle Jésus prie. Ça, c'est les versets 21 et 23. Et qui n'est pas sans rappeler le but du commandement nouveau qui dit que c'est à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chapitre 13, verset 35. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chapitre 13, verset 35. Ces deux aspects de notre témoignage sont absolument essentiels. Et troisièmement, nous avons la révélation de Jésus-Christ. Aussi bien que les chrétiens rendent témoignage en parole, ils ne se contentent pas de présenter un système de vérité qui s'imbrique les unes dans les autres, mais ils orientent l'attention sur Jésus-Christ. Et bien qu'ils rendent visible leur unité dans l'amour, dans les objectifs, la sainteté et la vérité, eh bien cette unité même, elle atteste de l'amour divin qui non seulement les anime, mais qui s'est manifesté de façon suprême, c'est-à-dire dans l'envoi de Jésus-Christ. Christ est au centre de tout. Et c'est lui que le témoignage de l'Église révèle. La récompense suprême de l'Église est la révélation suprême de la gloire de Jésus-Christ. Verset 24. Mais avant d'explorer cette vérité, arrêtons-nous quelques instants pour réfléchir à la manière dont les milieux ecclésiastiques, qui aujourd'hui sont plus que jamais modernes, il faut bien le dire, et je répète, dans les milieux ecclésiastiques modernes utilisent le thème de l'unité. Notez Saint Jean chapitre 17. Pour certains, le terme œcuménisme n'a que des connotations favorables. Ils considèrent l'œcuménisme fondamentalement comme étant une doctrine de compromission qui émascule l'Évangile et flirte dangereusement avec l'apostasie et d'autres formes d'incrédulité. Or, que dit le texte ? Le texte fait mention d'une unité entre tous les vrais croyants. Comme nous l'avons vu, cette unité est en partie un fait qui est lié à la qualité de disciple de Jésus-Christ, et en partie, c'est un objectif vers lequel nous devons tendre pour parvenir à l'unité parfaite. Elle n'est donc pas simplement une affaire de position, car elle doit servir de témoignage à l'observation du monde. On peut même dire que c'est la caractéristique de la communauté des croyants. Par ailleurs, nous remarquons qu'il n'est pas simplement question ici d'une unité d'organisation. Cela ne veut pas dire que l'unité pour laquelle Jésus prie ne peut se concrétiser par une unité organisée. Mais disons simplement que cette unité-là n'est ni fondamentale ni essentielle. La manifestation extérieure de cette unité spirituelle ne se réduit pas à un bel organigramme, mais à un témoignage efficace. C'est pas pareil. Le problème se complique aujourd'hui du fait que la chrétienté charge le mot « chrétien » ou l'expression « disciple de Christ » de sens absolument divers. Pour les uns, le chrétien est celui qui croit en un être suprême, vaguement teinté de christianisme. Pour les autres, toute personne morale est simplement chrétienne. Pour d'autres encore, le terme chrétien s'applique à celui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quel que soit le mode de baptême et quel que soit l'âge du baptisé. D'autres, enfin, utilisent ce terme pour qualifier celui qui est né de nouveau, et quel qu'en soit le sens exact, ou qui a accepté Christ comme son sauveur lors d'une grande manifestation où 150 personnes se sont avancées et qui a simplement suivi ce mouvement-là. Et là, on leur a dit, maintenant, vous êtes sauvés. Alléluia. Mais moi, je ne dis pas Alléluia. Comment l'unité chrétienne pourrait-elle se référer à une réalité claire, alors que le vocable chrétien peut signifier tout et n'importe quoi. Ce n'est pas le lien de présenter ici l'ensemble essentiel des croyants et des pratiques nécessaires pour caractériser valablement le chrétien. Mais si ce terme doit conserver sa signification néo-testamentaire, alors celui qui se dit chrétien ne peut légitimement adhérer à des doctrines que le Nouveau Testament condamne explicitement. Il ne peut non plus adopter des pratiques que le Nouveau Testament interdit formellement. Donc, vu sous un angle plus positif, il doit au moins s'en tenir à ce que le Nouveau Testament lui-même considère comme étant une confession de foi minimum ou comme pratique chrétienne essentielle. Et s'il ne le fait pas, eh bien, il galvaude le terme de chrétien. Donc, vous savez, je n'aime pas le dire parce que j'en ai honte. J'ai été environ plus de 30 ans un chrétien de nom, mais pas véritable. Prenons des exemples précis, chers amis. Supposons que quelqu'un confesse Jésus est Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Je vous pose la question. Est-ce là la garantie absolue qu'il est maintenant chrétien parce qu'il a dit Jésus est Seigneur? Malheureusement, non. Dans la situation des Corinthiens, cette confession était une condition à la fois nécessaire et suffisante. Il y avait très peu de contestations quant à l'identité de Jésus. La confession authentique de ce que Jésus, comme Seigneur, au sein d'une société polythéiste dans laquelle une telle affirmation exclusive scandalisait, ne pouvait que être l'œuvre du Saint-Esprit. Or aujourd'hui, la question de l'identité de Jésus ne se pose plus dans les mêmes termes. Par exemple, pour le libéral classique, Jésus est le plus grand moraliste de tous les temps. Le confesser comme Seigneur ne signifie rien d'autre que de partager ses hautes valeurs morales. L'adepte de Bultmann lui prétend qu'on ne peut rien savoir d'exact sur le Jésus historique. Pour lui, confesser Jésus comme Seigneur, c'est tout simplement s'ouvrir à la possibilité d'une existence authentique. D'autres encore considèrent Jésus à la fois comme Dieu et homme, mais ils estiment que son sacrifice sur la croix n'est absolument pas suffisant pour expier nos péchés. Jamais. Il faut donc lui ajouter d'autres sacrifices et la pénitence. Pour cela, confesser Jésus comme Seigneur se réduit à reconnaître la personne de Jésus alors que sur eux pèse l'anathème pour n'avoir pas accepté son œuvre. Galates chapitre 1 verset 8 et 9. Quelqu'un d'autre peut confesser Jésus est Seigneur pour indiquer son accord de principe avec les dogmes de l'orthodoxie, tout comme on peut réciter superficiellement le symbole des apôtres, et sans pour autant accepter sa seigneurie effective sur sa vie morale, sans permettre à Jésus d'intervenir d'intervenir dans son comportement égoïste, dans mon comportement égoïste et dans mes affaires pratiques. Donc, du point de vue de la formulation doctrinale, une telle personne passe avec succès le test. Il le passe, ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Mais refusant au test de la croissance dans l'obéissance et dans l'amour, 1er épître de Saint Jean, dans chacun des exemples considérés, la confession que Jésus est Seigneur, cela sert de critère nécessaire, mais non suffisant pour être un véritable croyant, pour être un véritable disciple de Christ, pour être un véritable chrétien. Point n'est donc besoin d'avoir une connaissance étendue du monde ecclésiastique et théologique actuel pour se rendre compte que si on applique les conditions fondamentales du Nouveau Testament, tout ce qui porte l'étiquette chrétien ne l'est pas nécessairement. Nous avons beau être aussi charitable que possible, l'individu qui va allègrement au-delà de ce que l'Écriture sainte reconnaît comme croyant en Jésus-Christ, n'est manifestement pas un véritable chrétien. Ne soyons pas surpris, car après tout, quand il est venu dans ce monde et qu'il a exposé la nature de Dieu à son propre peuple, seul un reste a compris qui il était vraiment. Le judaïsme se réclamait de grandes idées et affichait des croyances très élevées. Mais tous les Juifs qui épousaient le judaïsme n'adoptèrent pas du tout Jésus-Christ. Seul un petit reste est parvenu à la foi en Jésus-Christ. Et il en est exactement de même avec la chrétienté. Elle peut se targuer de présenter différents systèmes de croyances, ainsi que des valeurs éthiques et théologiques concurrentes, mais tous ceux qui sont inclus dans le christianisme, n'accepte pas le Christ qui s'est révélé à nous. Il y aura toujours deux livrets à côté du froment. La séparation ne se fera que à l'heure qui a été choisie par Dieu. En attendant, nous serions toutefois insensés ou naïfs de penser qu'il n'y a aucune différence entre l'ivraie et le bon grain. Si ces remarques ont quelque validité, elles peuvent se révéler utiles dans notre appréciation du mouvement œcuménique. Si les œcuménistes cherchent à rassembler en une seule organisation toutes les branches du christianisme, il s'efforce alors d'unir l'ivraie et le froment. Vous pouvez le croire ou pas le croire. Même si nous reconnaissons que toutes les dénominations ecclésiastiques renferment de vrais croyants, il y en a dans leur sein. Mais je ne suis pas très sûr que ce soit toujours le cas. Eh bien, le rejet systématique par certains groupes de vérités contenus dans la Sainte Bible n'inspire pas confiance. Notez maintenant Saint Jean chapitre 17. Ce chapitre n'envisage pas une unité entre les chrétiens et les gens du monde. Pas du tout. Quiconque n'est pas un chrétien authentique fait tout simplement partie de ce monde, qui s'oppose à l'unité de l'Église véritable. Celui qui s'appuie sur Saint Jean chapitre 17 pour revendiquer une unité qui ressemble, ou plutôt qui rassemble, le croyant et ceux qui sont apostats, c'est-à-dire le disciple et le renégat, il fait violence au texte biblique. Et je pense qu'un tel œcuménisme ne s'enracine pas dans les Saintes Écritures, mais dans les notions erronées, même si elles procèdent de bonnes intentions. Je répète, mais dans des notions erronées, même si elles procèdent de très bonnes intentions. Par ailleurs, ce qui unit les vrais croyants est bien plus important que ce qui les divise. Quoi qu'il en soit, ce qui nous unit est d'importance beaucoup plus fondamentale. Malgré l'appartenance à des dénominations différentes, il devrait exister entre les membres du peuple de Christ un réel sentiment de parenté. Il devrait exister un amour mutuel, un attachement commun, un profond désir d'apprendre les uns des autres et de parvenir ainsi, dans toute la mesure du possible, à une même compréhension de la vérité sur tous les points. Une telle unité devrait être si limpide et si forte qu'elle attire les autres. Il n'existe pas d'objection valable à un tel œcuménisme biblique. Le Seigneur Jésus lui-même le recommande fortement dans sa prière finale. Jésus prie que ses disciples jouissent de la bénédiction ultime. Il dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la fondation du monde. » Verset 24. J'ai pris cela dans ma version allemande. Premièrement, nous avons le contenu de cette bénédiction. En un mot, c'est Jésus lui-même aperçu dans sa gloire totale. Jésus envisage à la fin des temps, les disciples ne peuvent pas le suivre maintenant, a-t-il dit, chapitre 13, versets 33 et 36, car d'ailleurs, il ne demande pas au Père de les ôter du monde, chapitre 17, verset 15. Mais le temps viendra, où tout changera. Alors tout, après tout, on peut dire, Jésus a déjà promis, il a déjà promis de revenir et de prendre ses disciples avec lui. Chapitre 14, verset 3. Il développe de nouveau cette perspective. Il veut que ceux qui lui sont donnés soient là où lui-même est et qu'il voit sa gloire au sein de la divinité, celle qui lui appartient en tant que Dieu. La contemplation de Dieu, c'est une perspective qui ne peut manquer de stimuler le chrétien. Sans elle, le ciel serait un triomphe vain, mais avec elle, c'est le lieu qui n'a pas la plus grande importance, car ce sera l'épanouissement total, car voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur et félicité. Ta gloire est encore voilée, oui, d'un voile ensanglanté, mais bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Ô quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse: je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence je te verrai, divin roi, pour toujours je serai en ta présence et je serai semblable à toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, chers amis, la gloire de Christ est d'autant plus merveilleuse qu'elle est double. Jésus a choisi de vivre parmi nous dans la gloire paradoxale de l'humiliation, afin de nous sauver et de nous élever jusque dans les hauteurs célestes, pour que nous contemplions l'éclat immaculé de la gloire divine qui lui revient de plein droit. Alors, Jésus, oui, il résume son ministère. Notez chapitre 17, versets 25 et 26. Dans ces deux derniers versets de Saint Jean, chapitre 17, Jésus résume son activité en faveur de tous ceux que le Père lui a donnés. Jésus fixe son attention à la fois sur son ministère passé et sur celui à venir. En ce qui concerne le passé, il prie: Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton saint nom. Versets 25 et 26. Jésus contraste donc avec le monde. Celui-ci ne connaît pas Dieu et n'a pas reconnu Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 10. Jésus ne se contente pas d'affirmer qu'il a fait connaître le nom de Dieu tout au long de son ministère qui touche à sa fin, mais il poursuit: et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Verset 26. C'est l'Esprit promis qui accomplira cette œuvre. Par ce ministère qui se poursuit, l'amour du Père pour le Fils s'étendra aux disciples et les remplira, et Jésus lui-même sera présent en eux par l'intermédiaire du Consolateur, l'Esprit Saint. Chapitre 14, verset 23. En partant, Jésus n'abandonne pas, jamais, les disciples dans la solitude et dans l'isolement. Loin de là, son but est de rassembler tous ceux que le Père lui a donnés et de les englober dans la richesse de l'amour qui existe entre les personnes du Dieu trinitaire. Mais en même temps, il vit parmi les rachetés et en eux. Il vit par l'intermédiaire du Saint-Esprit qu'il répand sur tous ceux qui croient. Amen. Et chers amis, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre édification personnelle et aussi pour vous encourager. Écoutez bien. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons vivre pour te glorifier en tout. Jésus vous dit, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Voilà le vrai rassasiement. Seul ce rassasiement spirituel peut satisfaire, peut guérir. Pardon, je répète. Seul ce rassasiement spirituel peut satisfaire, peut guérir et mettre au repos les désespérés, les défaillants et les lassés. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Saint Jean chapitre 6, verset 68. Tu dresses la table devant nous. Psaume 23, verset 25. Verset 5. J'ai dit psaume 23, verset 5. Jésus, tu es le pain de vie. Tu es le pain de vie descendu du ciel. Jean 6, verset 35 et 48 à 51. Bien peu nombreux encore sont ceux qui comprennent que le miracle des pains par lequel Jésus rassasia des foules de 4 et 5 000 personnes, cela n'est que la figure de ce qu'il a dû faire pour être à jamais la nourriture des âmes. Songez donc aux révélations merveilleuses qui attendent encore ceux qui pénétreront dans son intimité. Les siècles ont passé et son enseignement et ses miracles sont encore bien peu compris. Une grande partie de son ministère terrestre est comme un continent inexploré spirituellement parlant. Ces choses, en effet, ne peuvent être révélées que au cœur humble et véritablement aimant qui ne quitte jamais Jésus-Christ. Elles ont été soigneusement cachées aux sages et aux prudents pour être révélées aux petits-enfants. Ne vous croyez pas tenu de porter les péchés et les souffrances du monde. Pour le faire et vivre, il faut être le Christ. Attachez-vous donc plutôt à découvrir autour de vous ceux qui font preuve d'amour, de sincérité, de bonté et de courage. Et maintenant, prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous t'avons prié de nous apprendre à sentir de plus en plus combien nous sommes en toute chose obligés d'accomplir ta volonté. Mais nous devons te supplier encore de nous apprendre à l'aimer, ta volonté, et de nous la rendre vraiment chère et précieuse. Lorsque tu nous rends heureux, lorsque tu nous combles de faveur, que cette pensée, c'est la volonté de Dieu, cela nous rend plus heureux encore et donne plus de prix à tes bienfaits. Lorsque tu nous éprouves par la maladie, par l'affliction, que cette même pensée adoucisse nos souffrances et ôte toute amertume à la douleur. Et lorsque tu nous appelles à quitter cette terre, que nous te disons avec promptitude et confiance que ta volonté soit faite au Dieu et non pas la nôtre. Ô Seigneur, nous savons que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais au contraire, ta volonté est qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est en nous appuyant sur cette précieuse promesse que nous implorons ta grâce et que nous te supplions de nous attirer de plus en plus aux pieds de Jésus-Christ, oui, du Seigneur, par lequel nous sommes réconciliés avec toi. Ô Seigneur, prends pitié de notre faiblesse et daigne amener toutes nos pensées et toutes nos volontés captives à l'obéissance de la croix. Que nous puissions dire du fond de nos cœurs avec ton divin Fils, j'ai pris plaisir à faire ta volonté. Il n'est pas un instant de notre vie où nous n'ayons ce devoir à remplir. Les anges puissants en force obéissent à la voix de ta sainte parole. Que toute la terre se prosterne donc aussi devant toi. Éternel notre roi et notre Dieu, daigne nous faire passer ces jours dans la paix et dans la douce confiance de ta volonté et la toute puissance pour nous garder. Nous te remettons tous ceux qui sont chers entre tes mains paternelles, afin que tu en disposes selon ta volonté et que ton saint nom soit béni et soit glorifié à jamais. Amen. Et chers amis, je voudrais maintenant, pour terminer, vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé. Figurez-vous, 1962. C'est très, très long, plus d'un demi-siècle. Et en ce temps-là, je ne pouvais pas enregistrer avec les mêmes outils qu'il y a aujourd'hui. Et en plus, le son, la netteté des paroles, forcément a diminué avec plus d'un demi-siècle, et cela se comprend. Mais vous serez bénis quand même. Et souvenez-vous que Dieu vous aime. Et il est de mon devoir de vous aimer de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace et je vous embrasse tous. Et je vous dis, soyez bénis et à demain matin pour une nouvelle série importante. Que le Seigneur vous bénisse.
Wonderful is Jesus, the Master's King. Wonderful of praise, which to Him we sing. Wonderful of freedom to whom we cling. On the way to glory land, our Lord is leading us to glory. Oh, so wonderful is Jesus, wonderful is freedom, wonderful is Christ, leading us. That made us free forever. One full salvation. He is offering to us.
Yes, the Lord is offering to come.
He is offering to come.
Just wonderful is he who he does lovingly above. Wonderful, wonderful, wonderful is he.
And here is the Hour of Decision Choir as they open our program of song today.
Life sustained and your health regained, you would serve him at home or abroad.
Will you keep that vow to the Savior now? The old promise that was broken somehow. So before him bow and his will allow. Will you keep, will you keep that vow?
And that... We sing a little.
The promise of the Lord is sure that he is coming soon. There are signs on earth around us, in the skies and in the moon. Lift up your heads, ye saints of God, the battle is almost won. The Lord is on his way.